Bénissons de ce que nous avons pu, en cette soirée, nous réunir encore sous ton regard. Tu sais qui sont ceux ou celles qui sont encore en chemin, nous les recommandons à ta grâce, nous te demandons de les préserver et de les conduire comme tu conduisais autrefois les mages, au lieu où ils pourront non pas nous trouver, nous, mais te trouver, toi. Et te trouver aussi en chacun de nous. Parce que c'est cela, le but de cette retraite. Ô Dieu, que tu sois grand au milieu de nous. Nous te bénissons parce que nous croyons à la puissance de ton esprit. En Jésus. Amen. Eh bien, nous faisons cette lecture. Vous avez vos Bibles, ouvrez-les peut-être, à ce chapitre 20 de l'Évangile de Jean, verset 19e. Le soir de ce jour, quel était ce jour? Vous l'avez, c'était le premier jour de la semaine, ce qui correspond pour nous à quoi? Au dimanche. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, ce qui n'est pas le cas en ce moment au manoir d'Ouville, les portes sont encore ouvertes. Mais on peut comprendre que les disciples se soient réunis avec des portes fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Vous savez que c'est encore un privilège de pouvoir se réunir pour être ensemble, pour parler du Seigneur. Il y a des lieux où on ne peut plus le faire. Mais malgré ces portes fermées, par la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint. Et debout, au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. » Direz-vous qu'il se répète? C'est beau d'entendre deux fois cette parole, surtout dans un temps comme le nôtre, que la paix soit avec vous. Et j'ai mis ce texte au tableau, qu'il vous imprègne. C'est la parole du Seigneur. Mais il ajoute, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Nous allons apprendre que nous avons tous une mission. Et nous voulons comprendre quelle est vraiment notre raison de vivre. Que nous sommes les uns et les autres des envoyés. Et où le Seigneur va-t-il nous envoyer? À la fin de cette retraite, où irez-vous? Dans vos demeures. Mais nous espérons que nous y retournerons dans nos demeures. Peut-être pas comme nous sommes partis. Mais vous voyez par le Seigneur et que ceux qui nous retrouveront éprouveront que c'est vrai. Que c'est le Seigneur qui vous envoie dans vos demeures. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Il va nous renvoyer dans les demeures. Il va nous donner aussi ce qui est nécessaire pour que nous puissions avoir auprès de tous les nôtres un témoignage, peut-être bien différent que celui que nous avons eu jusqu'à ce jour. C'est le Seigneur qui vous parle. Il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Est-ce que nous sommes ouverts pour recevoir cette parole? Verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Est-ce qu'il n'y avait dans cette chambre haute que les 12 apôtres? Non, c'était l'ensemble. De sorte que ce n'est pas pour une catégorie de personnes que le Seigneur a dit cela, comme si il y avait seulement des prêtres ou des pasteurs qui peuvent apporter le pardon des péchés au nom de Jésus. C'est nous tous qui devrions recevoir par le Saint-Esprit ce discernement qui nous permet de dire à certaines personnes qui se repentent de leurs péchés, tes péchés sont vraiment pardonnés. De sorte que nous serions des aides pour ceux qui nous entourent. Mais d'un autre côté, nous devrions aussi dire à ceux qui continuent de vivre dans le mal, qui continuent de vivre loin du Seigneur, et qui prétendent qu'ils sont pardonnés et qu'ils peuvent tout faire, vos péchés sont sur vous. Ils sont retenus. Nous devons avoir des paroles pour les uns et pour les autres. Alors, chers amis, comme plusieurs le savent, c'est toujours par un souhait de bienvenue que nous commençons nos retraites Mahanaïm en ce lieu. Je dirai deux mots sur le nom de Mahanaïm pour ceux qui sont là pour la première fois. Nous aimons être reçus ensemble ici par le Seigneur lui-même et nous aimons recevoir une première parole et un signe de sa grâce pour les heures que nous allons vivre dans cette maison. Et cette parole, comme vous l'avez remarqué, nous la recevons ce soir comme les premiers disciples de Jésus l'entendent dire au soir du premier jour de la semaine, lorsqu'ils étaient réunis dans ce lieu où, comme nous l'avons dit, les portes avaient été fermées par crainte des Juifs. Il faut se souvenir que 3 jours avant, qu'est-ce qui s'était passé? 3 jours avant ce soir-là, Jésus avait été arrêté. Leur maître avait été jugé, il avait été flagellé, il avait été crucifié. Et ceux qui avaient été ses disciples pouvaient donc bien se sentir menacés en ce premier jour de la semaine qui suivait le sabbat juif du 7e jour. Et ce 7e jour, où le Seigneur l'avait-il passé? Ce fameux jour du sabbat juif, où le Seigneur l'avait-il passé? Dans le tombeau. Il faut que cela se fixe dans votre sensibilité. Ce 7e jour du sabbat juif, le Seigneur Jésus, le Fils unique de Dieu, l'avait passé dans ce tombeau, dans cette sépulcre. Mais bien sûr, à l'aube de ce premier jour de la semaine, des nouvelles extraordinaires avaient circulé parmi les disciples. Des femmes étaient allées de grand matin au sépulcre, et qu'est-ce qu'elles avaient trouvé? Le sépulcre vide. Elles étaient venues le dire aux disciples, et Pierre et Jean s'étaient rendus ensemble au sépulcre et avaient constaté que les femmes ne s'étaient pas trompées. Mais Marie de Magdala, qui s'était attardée près du sépulcre après le départ des deux disciples, était revenue vers les disciples en leur affirmant qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait donné un message pour eux. Vous rendez-vous compte ce que le Seigneur a fait? Il charge une femme qui est restée près du sépulcre d'apporter un message aux disciples qui sont réunis à Jérusalem. Et quel était ce message? Va, dis à mes frères. Je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Alors, remarquez, mes amis, que jamais Jésus n'avait appelé ses disciples ses frères. Il les avait nommés comment? Serviteurs. Puis, la veille de sa mort, il leur avait dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais vous êtes mes amis. Il les avait appelés amis, comme on le trouve dans cet évangile de Jean chapitre 15. Alors, par Marie, en ce premier jour de la semaine, les disciples apprenaient que Jésus les appelait frères. Et je voudrais que chaque mot prenne tout son sens et toute sa force dans vos cœurs. Il soulignait donc, s'il les appelait frères, que son Dieu était leur Dieu. Est-ce que vous le croyez? Le Dieu de Jésus-Christ est votre Dieu. Et le Père de Jésus-Christ, son Père, il affirmait qu'il était leur Père. Est-ce que cela nous dit quelque chose en 1994? Puis, en fin de cette journée, deux de ses disciples qui avaient quitté Jérusalem pour se rendre à Emmaüs étaient revenus en disant à leurs compagnons qu'ils avaient quitté, qu'ils avaient vu le Seigneur. Et que réellement, dans ce premier jour de la semaine, le Seigneur avait marché avec eux sur la route, qu'il leur avait parlé, qu'il était entré dans une maison où il avait rompu le pain avec eux, qu'il leur avait enseigné dans toutes les Écritures les choses qui leur concernaient. Et qu'est-ce qui caractérisait ces deux disciples qui avaient abandonné cette communauté de Jérusalem quand ils sont revenus ce soir-là? Leurs cœurs étaient des cœurs brûlants. C'est beau, hein? Ce soir de la résurrection, leurs cœurs brûlaient. Ils avaient pourtant quitté l'assemblée. Mais quand ils sont revenus, ils revenaient avec des cœurs brûlants. Et ils avaient quelque chose à leur dire. Donc, le Seigneur n'avait pas seulement parlé à Marie-Madeleine, mais il avait parlé à deux de ses disciples qui s'étaient éloignés
de Jérusalem. Alors voilà, ses disciples avaient entendu toutes ces choses, mais dans ce soir du premier jour de la semaine, ils étaient encore remplis de crainte alors qu'ils étaient assemblés dans ce même lieu. Et tout à coup, ce Jésus dont on leur disait les paroles qu'il avait prononcées, donc après être sorti du sépulcre, tout à coup, que voit-il alors que les portes sont fermées? Jésus au milieu d'eux. Oh mes bien-aimés, de tout mon être, j'ai demandé au Seigneur que chacun ici puisse éprouver que dans cette maison, non pas en ma présence, mais je suis avec vous, nous sommes ensemble, nous allons réaliser que celui qui est là, c'est Jésus. Il est au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez? L'a-t-il dit ou l'a-t-il pas dit? S'il ne l'avait pas dit, je ne prêcherais pas l'évangile. Mais il a dit là, ou deux ou trois. Mais il faut bien qu'on ait un lieu. Et je veux espérer que vous aimerez ce lieu. Parce que c'est un lieu providentiel. Il y a 14 ans que nous avons commencé de nous réunir dans ce lieu. Je me dis toujours que c'est la dernière fois. Et plus que jamais. Plus que jamais. Mais il est toujours là. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Quand je dis encore aux sœurs que je ne peux pas m'engager pour l'année prochaine, elles disent non, vous allez le faire. Donc, on est accueillis dans ce lieu et nous en bénissons le Seigneur. Voyez-vous, le lieu où il se réunissait quand il était sur la terre, lui l'étranger, c'était toujours un lieu providentiel. La dernière scène, il l'a instituée dans ce lieu providentiel où on a trouvé tout préparé pour qu'il puisse célébrer la Pâque. Donc Jésus s'est présenté là. Et quelle a été sa parole? Vous voyez que quand Jésus est là, il a toujours une parole qui correspond à nos besoins. Qu'est-ce qui caractérisait les disciples ce soir-là, ce soir du premier jour de la semaine? C'était la crainte. Et qu'est-ce qu'il leur dit? La paix soit avec vous. C'est tellement merveilleux. Quand c'est Jésus qui parle, quand c'est Jésus qui nous donne sa parole, c'est toujours une parole qui correspond à notre besoin le plus profond. Et vous êtes peut-être venus de ces lieux divers de la province avec certaines craintes. Et la première parole qu'il vous dit, que vous soyez jeunes, parce que quand on est jeune, on peut aussi avoir des craintes. Je les ai eues quand j'étais jeune. C'est pourquoi nous sommes heureux d'accepter les plus jeunes parmi nous. Et qu'il y en a qui trouvent que c'est dommage qu'on accepte des jeunes parmi nous. Plus qu'ils peuvent comprendre. Ils peuvent tout comprendre. Et même mieux que souvent avec nos cheveux blancs. Parce que Jésus a dit qu'il fallait être comme des petits-enfants. Il faut devenir comme des petits-enfants pour voir le royaume de Dieu, pour y entrer. Si vous ne devenez pas tel que les petits-enfants, vous ne pouvez pas entrer. Alors pour ceux qui trouvent que nous exagérons en acceptant des très jeunes parmi nous, nous disons que Jésus avait 12 ans quand il est resté au temple. Marie et Joseph n'ont pas compris qu'il n'ait pas suivi le groupe. Mais il était là. Où était-il? Il n'était pas perdu dans la ville. Il était au temple occupé de la parole. De quelle parole? La parole de son père. Et il étonnait les grands savants juifs
par ses questions et par ses réponses. Vous voyez, il tenait sa place. Il n'essayait pas d'enseigner, il questionnait. Mais les questions qu'il leur posait provoquaient dans ces hommes âgés un étonnement tel qu'ils se mettaient à lui poser des questions. Et alors, les réponses qu'il donnait, c'était pas qu'il voulait les enseigner, mais il répondait, il était poli. Mais on se rendait compte que ça venait de quelqu'un de plus haut que lui-même. Il était enfant, il avait 12 ans, mais à 12 ans, il était occupé des affaires de son père. Et voyez-vous, j'ai toujours vu que les conversions des plus jeunes, de ceux qui avaient 12 ans, mon père s'est converti à l'âge de 9 ans, mais ça a tenu jusqu'à 80 ans. Il est parti vers le Seigneur dans la joie. Il n'avait pas attendu la mort, il attendait le Seigneur. Puis on lui disait quelquefois, puis s'il ne revient pas, j'ai lu récemment que quelqu'un a osé écrire, tout en se disant évangélique, que croire au retour du Seigneur, à l'imminence de son retour, croire que le Seigneur peut revenir dans notre génération, c'est une doctrine de démon. L'enlèvement de l'Église, en toutes lettres il était mis ça, est une doctrine de démon. Eh bien, chers amis, j'étais vraiment affligé de cela. Une doctrine de démon, alors déchirez votre Bible. Nous n'attendons pas la mort, nous attendons le Seigneur. Et je l'ai dit peut-être déjà ici, que quelqu'un avait dit à mon père un jour, « Et si vous n'êtes pas enlevé, si le Seigneur n'est pas revenu, si vous devez mourir ?» Elle disait, « Pour mourir, je n'ai besoin de personne. » Et il n'a eu personne. Mais quand on l'a trouvé, dans son lit, mort, son visage était resplendissant. À un tel point que, jusqu'au jour de l'enterrement, ce rayonnement était sur son visage. Donc, qu'est-ce qu'il avait vu? La mort avec la foi et la foi. Et ses grimaces? Non, il avait vu le Seigneur. Quand on attend le Seigneur, c'est le Seigneur qui est là. Que nous devions passer par la mort ou que nous soyons enlevés. Et c'est quelque chose de merveilleux de vivre en attendant le vivant. Alors mes amis, ce soir-là, puisqu'on essaye de vivre cette soirée du premier jour de la semaine, Jésus arrive, il est là. Comment a-t-il pu entrer? Il a déjà son corps de résurrection, et un jour, nous aurons aussi un corps de résurrection, ou un corps transmué, qui ne sera plus soumis aux lois de la matière, peu importe les portes, peu importe les murs. Le Seigneur est là. Et pourtant, il a un corps. Parce que il sait que ses disciples ont besoin d'être sûrs que c'est lui, d'être sûrs que ce n'est pas une simple apparition, parce que beaucoup ne croient pas à la résurrection de Jésus-Christ. On pense que, bon, les disciples ont eu des visions, et puis c'est une élucubration de certaines femmes. Eh bien, non. Il leur montre d'abord ses mains. Et qu'est-ce qu'il peut voir dans ses mains? La marque des clous. Quelques jours avant, ils ont entendu ce marteau. Ils ont vu ses clous le transpercer. Il leur montre ses mains. Et puis, qu'est-ce qu'il leur montre encore? Le côté percé, qui avait été percé par la lance du soldat, pour bien leur prouver que c'était lui. Le crucifié de Golgotha était au milieu d'eux. Alors, la réaction des disciples, quand il leur a dit,
la paix soit avec vous. Donc, ils se sont rassurés, mais ensuite, quand il leur prouve qu'il est bien le Seigneur, qu'est-ce qui entre dans leur cœur? Après la paix, qu'est-ce qui vient? La joie. Alors nous espérons que dans cette retraite, dans le développement de cette retraite, si nous sommes avec Jésus, nous aurons non seulement la paix au sujet de toutes les circonstances que nous pouvons traverser, parce qu'il nous dit la paix soit avec vous. Alors, je reçois cette paix. Qu'elle vienne à vous, quelles que soient vos circonstances, comme un fleuve, et qu'elle envahisse tout. Que la paix soit avec vous. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est le Seigneur qui est au milieu de nous. Et alors, qu'est-ce qui doit entrer dans nos cœurs ce soir? La joie. Il est dit qu'ils eurent de la joie quand ils virent le Seigneur. Et alors, il leur dit une deuxième fois que la paix soit avec vous. Et pourquoi leur dit-il ça? Parce qu'il va leur donner une responsabilité. Et vous savez, on a peur de nos responsabilités. Mais quand le Seigneur veut nous donner une responsabilité, qu'est-ce qu'il nous donne d'abord? La paix. Il faut que nous ayons la paix. Il va vous donner une responsabilité. Nous avons un témoignage à rendre. Évidemment, si nous regardons à nous-mêmes, nous sommes craintifs. Alors nous avons besoin de l'entendre encore une fois nous dire « La paix soit avec vous. » La paix soit avec vous. Parce qu'il va les envoyer dans le monde. Et pourquoi sont-ils enfermés? C'est parce qu'ils ont peur du monde. Et nous, bien souvent aussi, quand nous voyons ou que nous lisons ce qui se passe sur cette planète, bien nous pourrions être craintifs, nous pourrions être troublés, ça, c'est tous les jours on entend des mauvaises nouvelles, on voit des choses abominables, des catastrophes. Alors le Seigneur nous dit comme que la paix soit avec vous. Oui, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Qui est-ce qui a envoyé Jésus? Le Père. Et maintenant, qui est-ce qui nous envoie? C'est Jésus. Mais il nous envoie de la même manière que le Père l'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est beau. De pouvoir accepter la parole. Ce n'est pas un grand discours que je suis en train de vous faire, mais j'essaye de manger avec vous cette parole, de la laisser pénétrer juste dans ma sensibilité pour que ce soit vrai de vrai quand je me trouve dans toute espèce de difficulté, de lutte, de combat, de contradiction. Et après ces paroles, parce que le Seigneur ne nous donne pas seulement des paroles, mais qu'est-ce qu'il fait? Il souffla en eux et dit, recevez l'Esprit Saint. Ça vous fait penser à quoi? Ce Jésus ressuscité qui souffle dans ses disciples et qui leur dit, recevez l'Esprit Saint. Est-ce que vous avez une portion de l'Écriture où il est question de, du souffle de Dieu à la création? Dans le chapitre 2 de la Genèse, l'homme a été façonné de la poussière du sol, puis le Seigneur souffla dans ses narines une respiration de vie. Et alors, l'homme devint une âme vivante. Mais qu'est-ce que Jésus a fait, lui qui est le second homme, le dernier Adam, celui qui est venu pour vivre la vie que Dieu voulait qu'un homme possède, eh bien, ayant vécu cette vie d'une façon parfaite, lui, le second homme, qu'est-ce qu'il est ? Un esprit vivifiant. Et c'est l'esprit qui vivifie. De sorte que ce qui s'est passé dans la chambre haute, est-ce que c'était la Pentecôte ? Non. C'était pas encore la Pentecôte, parce que la Pentecôte ne pouvait avoir lieu qu'après que Jésus aurait été glorifié, n'est-ce pas ? Ce n'est pas de la Pentecôte qu'il est question. Je sais que certains théologiens disent que dans ce texte de Jean, eh bien, les vérités ont été mises les unes sur les autres, ce qu'on appelle télescopé, un grand mot. Tout a été télescopé. Alors, dans ce chapitre 20, vous auriez déjà la Pentecôte. Est-ce que c'est ça ? Non. Ce n'est pas la Pentecôte. On va le voir demain, ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et quand eut lieu ce qui est appelé le baptême du Saint-Esprit, pour retrouver le vrai sens du mot baptême du Saint-Esprit. Est-ce que Jésus, dans son ministère, avait baptisé du Saint-Esprit ? Vous ne trouvez aucun texte qui vous montre que Jésus aurait baptisé du Saint-Esprit. Jean avait dit, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Mais dans sa vie terrestre, Jésus n'a pas baptisé du Saint-Esprit. Il allait le faire, mais quand ? Quand il serait glorifié. Et cela va bien situer les choses, parce que ce que nous désirons, ce n'est pas que vous ayez nos idées, mais que vous receviez la parole et qu'ayant reçu la parole, vous ayez des certitudes et que vous ne soyez pas toujours agités en vous demandant est-ce que j'ai reçu, est-ce que j'ai pas reçu. En ce moment, ce soir, le Seigneur veut vous vivifier déjà par sa parole et laissez-le souffler en vous. Et quand cette parole est vivifiée par l'Esprit, eh bien, elle nous pénètre et elle devient agissante. Et elle nous donne, justement, ce qu'il leur dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Est-ce que des hommes peuvent pardonner les péchés ? C'est le Seigneur, n'est-ce pas ? Mais il peut nous donner le discernement pour pouvoir dire à ceux qui ont accepté le Seigneur, tes péchés sont pardonnés. C'est pas seulement un prêtre, un pasteur. C'est individuellement, si vous vivez avec le Seigneur et que vous êtes en contact avec des âmes, vous pouvez leur dire, mais je sais que tes péchés sont pardonnés, on le voit, n'est-ce pas ? Tu le crois ? Et c'est vrai. Et alors on apporte une parole d'affirmation. Alors, ce premier jour de la semaine, qu'est-ce que ça a été ? Au fond, c'était le premier dimanche, comprenez-le bien. Ce premier jour de la semaine où Jésus est apparu à ses disciples, ça a été le premier dimanche. Jésus introduisait quelque chose de tout nouveau. C'est l'origine du dimanche, jour de la résurrection. Parce qu'on veut toujours nous ramener au septième jour, comme si nous devions nous remettre sous la loi. Si vous voulez être ramené au septième jour, eh bien, vous annulez l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est cela que nous devons bien comprendre. Vous vous souvenez qu'à la fin de la création, après les six jours, Dieu s'était reposé, hein, le septième jour. Et il avait béni le septième jour, c'est vrai, hein, Genèse 2, verset 3. Parce qu'il voulait faire entrer sa créature dans son repos. Mais qu'est-ce qui est arrivé ? Est-ce qu'il a pu faire entrer sa créature dans son repos ? Son propre repos qui était le repos du septième jour, hein, du sabbat. Son repos à Dieu a été troublé. Et l'ange n'a pas pu y entrer. Et c'est pourquoi Jésus, quand il était sur la terre, lisez le chapitre 5 de Jean, il disait au début de son ministère que Dieu s'était remis au travail. Il disait, mon Père travaille, et moi, je travaille jusqu'à maintenant. Parce que Dieu préparait la rédemption de l'homme. Et justement parce que Jésus travaillait, accomplissait des œuvres le jour du sabbat, qu'est-ce qu'on lui disait? Les Juifs, qui maintenaient le septième jour, bien sûr, c'est leur religion, ils voulaient le faire mourir, parce qu'on disait qu'il transgressait le sabbat. C'était vraiment la lettre qui tue. Le sabbat, pour le peuple juif, avait été institué quel jour? Au jour où Dieu avait donné la loi au pied du Sinaï. Hein. C'est là qu'il est parlé du septième jour, qui devait être le repos pour le peuple racheté d'Égypte. Mais depuis ce moment où ils avaient entendu la voix de Dieu prononcer les 10 commandements, qu'est-ce que le peuple avait manifesté? Est-ce qu'ils avaient suivi la loi? Ils l'avaient transgressée. Et ils avaient manifesté qu'ils étaient complètement incapables d'accomplir la loi. Est-ce que, si vous vous mettez sous la loi, est-ce que vous pouvez l'accomplir? Est-ce que vous aurez un repos en étant sous la loi? Non. Vous aurez toujours la conscience troublée. La loi ne nous donne pas le repos. Qu'est-ce qu'elle nous manifeste? La puissance de quoi? Du péché. Et c'était une leçon que le peuple devait apprendre. Que s'étant séparé de Dieu, non seulement il était séparé de Dieu, mais qu'il était sans force. Or, c'est pas ce qu'on vous dit aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on vous dit, vous devez trouver la force en vous-même, etc. C'est toute la psychologie, c'est toute la psychanalyse, c'est tout ce que vous voulez. N'est-ce pas? Et on vous demande de trouver en vous-même la force. Et on vous tue. Oh, que le Seigneur puisse nous guérir, même physiquement, de nos dépressions, par sa parole. Parce que voyez-vous, ce premier jour de la semaine, on le trouve déjà dans le Lévitique, au chapitre 23, au verset 11, quand on devait offrir la gerbe des prémices qui était tournoyée le jour du sabbat, c'était un type de Christ le lendemain, pas le jour du sabbat, le lendemain du jour du sabbat. On devait tournoyer cette gerbe et c'était la figure du Christ ressuscité en dehors de l'ordre présenté par les 7 jours. Et voyez-vous, une semaine plus tard, qu'est-ce que vous apprenez dans ce chapitre 20? Quel est le jour que le Seigneur a choisi pour apparaître une deuxième fois parmi ses disciples? Parce que Thomas n'était pas là le premier jour de la semaine. C'était le... De nouveau, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le 8e jour. Eh bien, voilà. Que le Seigneur revient ce premier jour de la semaine et confirme à ses disciples et à Thomas, qui n'a pas cru, eh bien, il lui confirme qu'il est réellement ressuscité. Et si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous voyez au chapitre 20, que l'on célébrait la scène, quel jour? finalement dans le chapitre 20 des Actes, le premier jour de la semaine. Si vous arrivez dans les Corinthiens au chapitre 16, quant à l'offrande qu'on faisait pour le Seigneur, c'était le premier jour de la semaine qu'on mettait à part une somme d'argent volontairement hein, pour l'œuvre du Seigneur. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, quand Jean est à Patmos, qu'est-ce qui lui arrive le premier jour de la semaine? Dans la journée dominicale, il a la vision du Seigneur. Donc il n'est plus question du septième jour, il est question du premier jour de la semaine. Alors Jésus est là, au milieu d'eux. Donc, il n'est pas question encore de la Pentecôte, mais il est question que Jésus a soufflé en eux son esprit pour qu'ils puissent faire face en attendant l'accomplissement de la promesse qui devrait s'accomplir une fois qu'il serait remonté vers son Père. Qu'est-ce qu'il leur enverrait? Un autre consolateur. Donc, le Saint-Esprit, est-ce que c'est qu'une puissance ou est-ce que c'est une personne? C'est une personne. Mais jusque-là, le Saint-Esprit se montrait comme une puissance. Il ne faut pas opposer puissance et personne. Dans l'Ancien Testament, vous voyez que c'était une puissance qui saisissait certains hommes, mais ensuite, elle se retirait. Et là, le Seigneur a soufflé en eux l'Esprit. C'est une puissance qui leur est donnée pour les jours qui vont venir, mais ce qu'ils vont recevoir, c'est un consolateur, un autre consolateur. De sorte que, depuis la Pentecôte, comme nous le verrons, le Saint-Esprit, comme personne, il est où? Dans le ciel ou sur la terre? Il est sur la terre. Dans l'Église, qui est le corps de Christ, et dans chaque croyant. Mais à nous de laisser vivre cette personne en nous. Il faut que lui croisse et que nous, nous diminuons. Ce sera là notre grande joie. Eh bien, en attendant, le Seigneur est là. Nous avons la paix et nous avons la joie. Que nous puissions vraiment commencer cette retraite avec la paix, la joie et l'assurance que le Seigneur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc s'il l'a dit, nous pouvons en faire l'expérience. Nous allons nous arrêter ici ce soir au sujet de notre méditation. Vous avez dans vos mains le bien-aimé hier soir. Ce n'est pas simplement avec un souhait de paix que le Seigneur nous a accueillis, mais c'est véritablement en nous donnant la paix. Cette paix dont Paul a pu parler en disant qu'elle surpasse toute intelligence et qu'elle peut garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est un vrai miracle de se trouver au sein de difficultés, de circonstances qui peut-être nous menacent et d'avoir la paix. Eh bien, là, c'est le miracle du Seigneur. Il l'a fait pour ses disciples au soir de la résurrection, ce premier jour de la semaine, après avoir quitté le tombeau où il avait passé la journée du sabbat. Eh bien, il est au milieu de ses disciples craintifs et il leur a dit, la paix soit avec vous. Et ils eurent de la joie. Mais le Seigneur ne veut pas seulement que nous ayons paix et joie. Nous vous avons montré hier qu'il voulait nous donner une responsabilité. Et ce qui m'a bouleversé déjà ce matin, où je crois, mais je suis encore toujours émerveillé quand j'entends que la parole a touché un cœur et que quelqu'un a saisi d'une façon nouvelle ce que pouvait être le salut. On a tellement habitué les âmes dans des réunions d'évangélisation à présenter un petit salut que ça ne vaut plus tellement grand chose. Il n'y a pas de changement réel dans la vie de plusieurs qui ont pris une décision pour le Seigneur. Tandis que quand on a vraiment affaire avec l'Esprit de Dieu, qui est une puissance qui agit dans nos vies et qui vivifie la parole, eh bien, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Ce n'est plus nous qui avons choisi le Seigneur, mais nous apprenons, c'est lui qui nous a choisi. Et c'est quelque chose de merveilleux. Vous n'avez pas été simplement sauvés de vos péchés, mais vous avez été sauvés pour que vous puissiez aller parler à d'autres du pardon de leurs péchés, avec discernement et avec une autorité. Bien sûr, je n'ai pas pu développer beaucoup cette parole, mais nous vous avons fait remarquer que Jésus répète une deuxième fois, après leur avoir donné les preuves de sa résurrection, il leur répète une deuxième fois, je vous donne la paix. Et il souffla en eux, sur eux, le Saint-Esprit en disant, recevez le Saint-Esprit. Et non seulement cela, il ajoute, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Nous ne sommes pas des gens qui s'envoient à eux-mêmes. Et servir le Seigneur, ce n'est pas un job qu'on aurait trouvé au sein de toutes les difficultés. Alors maintenant, je sers le Seigneur. Dieu, non, c'est être envoyé par le Seigneur. Comme lui-même a été envoyé du ciel, par qui? Par son Père. Donc c'est une vocation, c'est un appel. Et quel sera ce travail? Eh bien, grâce à cette puissance du Saint-Esprit, nous pourrons, dans un monde de péché, discerner ceux qui passent vraiment par la repentance, qui reconnaissent leur misère, leur péché, qui confessent leur péché, mais qui peut-être n'ont pas encore d'assurance. Et ils auraient besoin d'avoir cette assurance. Eh bien, nous pourrons leur dire, étant dans la main du Seigneur, que leurs péchés sont pardonnés, dans l'autorité du Saint-Esprit. Et cela deviendra dans leur cœur une certitude. Quand cela m'a été dit, j'avais 13 ans et demi, je venais de donner mon cœur au Seigneur, mais il y avait toutes sortes de doutes encore dans mon cœur. Et quand la personne que Dieu avait utilisée pour m'amener à une foi authentique, réelle, au Seigneur Jésus m'a dit, maintenant, tu ne dois plus douter. Tu es pardonné. Eh bien, vous savez, c'est une assurance qui ne m'a jamais quitté. Mais quelqu'un a posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire retenir les péchés? Mais si vous avez du discernement spirituel, et puis que vous rencontrez quelqu'un qui prétend être sauvé et qui vit dans le mal, qui continue de vivre dans le péché, c'est-à-dire dans la transgression des lois du Seigneur, et qui prétend, mais
Dieu est tellement bon, je sais que je suis pardonné. Non, vous retiendrez les péchés. Et je vous donne cette parole qui n'est pas de moi, mais qui est celle de l'apôtre Pierre, qui s'est trouvé avec Jean, l'autre disciple, en Samarie, où il y avait un homme qui s'était fait baptiser, parce qu'on peut même être baptisé. Il s'était fait baptiser, il s'appelait comment ? Simon. Et quand il a vu que le Saint-Esprit était donné à tous ses convertis par l'imposition des mains de Jean et de Pierre, il leur a dit, il leur a offert de l'argent pour qu'il leur donne ce pouvoir, pour que lui aussi puisse donner le Saint-Esprit à ceux qui le désiraient. Et qu'est-ce que Pierre lui a dit ? Il a retenu son péché sur lui. Il lui a pas dit, c'est bien, mais merci, ça nous aidera financièrement pour l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur. Mon œuvre. Mes intérêts. Oh, comme nous sommes des menteurs, nous avons besoin d'une purification. Je lis, pour que vous sachiez, c'est bien la parole. Actes chapitre 8. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent. Et dit, donnez-moi aussi ce pouvoir, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent aille à la perdition avec toi. Il n'a pas laissé dans l'illusion. Puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire. Tu pouvais te baptiser. Philippe n'avait pas pu discerner tout. Il y avait une telle foule qui s'était convertie, il avait baptisé ceux qui s'était avancé et lui avait été baptisé. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Vous voyez, il y a un discernement spirituel. Et quand nous rencontrons quelqu'un qui prétend, oh, moi je suis sauvé depuis X années, c'est pas être sauvé depuis X années, c'est être sauvé aujourd'hui. C'est être sauvé maintenant. Parce que le salut est une actualité constante. Mais ce n'est pas nous qui pardonnons les péchés. Qui est-ce qui nous a pardonné les péchés? C'est Jésus. Alors vous avez encore la parole qui vous montre cela. Quand Jésus a dit aux paralytiques qu'on avait amené devant Dieu au chapitre 2 de Marc, tes péchés sont pardonnés. On a dit, comment peut-il dire une chose pareille? Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés. C'était vrai. Hein? Mais qui était Jésus? Il était Dieu. Et il allait accomplir l'œuvre qui allait pouvoir permettre à Dieu de pardonner les péchés. Alors, pour montrer que ce n'est pas une parole vide, Jésus regarde ces gens connaissant leurs pensées, et puis il leur dit ceci, qu'est-ce qui est le plus difficile de dire, tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que sur la terre, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, il regarde le paralytique et lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et qu'est-ce qui se produit? Instantanément, il se lève et sort guéri. Celui qui pardonne les péchés, c'est Jésus. Mais il a fait une œuvre parfaite, pour que ces disciples qui ont reçu eux-mêmes le pardon des péchés puissent apporter à d'autres l'assurance qu'ils sont pardonnés. Ils ont un discernement spirituel. Mais si on voit quelqu'un qui n'a que des paroles et qui n'a pas une vie et qui correspond à la vie du Seigneur, nous pouvons lui enlever son illusion. Et lui dire, tu dois passer par la nouvelle naissance. Tout cela, ça sera dit. Souvent, vous avez des questions au début d'une rencontre et vous voudriez tout de suite qu'on vous réponde aux questions. Ce n'est pas ma manière habituellement. Parce que je sais au cours de la retraite, il sera répondu à vos questions. Et c'est vieux, ça. Je me souviens qu'à Paris, en 1952-53, dans des conférences au Quartier Latin, eh bien, oui, les gens disaient à la fin de ces 18 soirs, mais évidemment, vous direz, on n'est pas 18 soirs ensemble, hein, mais ils disaient, nous n'avons plus de questions à nous poser. Parce que la parole avait répondu. Et ma mission, c'est pas tellement de répondre à vos questions, c'est de vous donner la parole. Et le Saint-Esprit, par la parole, répondra à vos questions. Mais cela est vrai. Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est la parole de ce matin qui s'est imposé à moi, il faut que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu pour connaître les choses de Dieu et pour pouvoir en parler, pas simplement jaser du Seigneur, comme on l'entend souvent. Ça m'avait frappé en 1960, la première fois que je suis venu, c'était à la TUC, après une réunion, quelqu'un m'a invité, puis m'a dit « Venez chez moi, on va jaser du Seigneur. » Évidemment, j'ai compris après ce qu'il voulait dire, mais jaser en Europe, ben, c'est parler facilement, hein. C'est pas être très sérieux, on jase. On ne va pas jaser du Seigneur, on va écouter ce que le Seigneur nous dit. On va le louer et on va le bénir. Eh bien, que Dieu nous garde dans cette journée, et qu'il nous bénisse, et que nous puissions les uns et les autres savoir que c'est par le Saint-Esprit que nous allons comprendre tout ce qui pourrait encore être un peu difficile pour nous. Dieu notre Père, qui fonde nos cœurs au début de cette journée, nous voulons te bénir. Tu nous as donné ton repos pour la nuit. Tu nous as vraiment donné cette paix. Et tu veux que cette paix demeure en nous. Parce que ce n'est pas un sentiment, c'est ta paix. Cette paix dont tu parlais la veille de ta mort en disant, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas à moi comme le monde donne. Donne-nous donc dans cette journée, quelles que soient nos circonstances, de rester dans la paix et amène toutes nos pensées captives à l'obéissance du Christ. Par ton esprit, pour la gloire du Père au nom du Fils et par la toute-puissance de l'Esprit. Amen. Eh bien, mes amis, maintenant, nous allons avoir le petit déjeuner à la cafétéria et à 9h, vous revenez tous ici et nous aurons la répartition des papiers.